Il y eut ce printemps-là une série de crimes particuliers, rapidement nommés dans la presse « crimes du 19e siècle ». Ceux qui les commettaient étaient des exploités de toutes sortes, employés, salariés, ouvriers agricoles, domestiques variés, misérables divers. Et ceux qui étaient assassinés étaient des patrons, des patronnes, des gens pour qui il n'y avait qu'à quoi. Faire ceci ou cela, étudier, arriver, acheter un beau costume, faire un effort, traverser la rue, etc. Évidemment, la France se divisait en deux, ceux qui étaient pour les criminels, ceux qui étaient pour les victimes. Mais le fait est que le mouvement ne s'arrêtait pas, se développait, s'amplifiait, tous les jours ou presque un nouveau fait divers, parfois plusieurs, dans les grandes villes, dans les campagnes, à chaque instant il se passait quelque chose. Certains des assassins parvenaient à s'enfuir, mais la plupart étaient pris et revendiquaient crânement leurs crimes. On les voyait même rire, se moquer, faire des plaisanteries plus ou moins drôles. Bref, c'était le monde à l'envers. Ou plutôt, c'était un retour en arrière. À ce 19e siècle, bien entendu imaginaire, mais enfin, la ligne de classe était tellement clairement indiquée qu'on ne pouvait pas ne pas y penser. Et c'est pourquoi le terme « crime du 19e siècle », inventé par un journaliste, chroniqueur dans un grand journal régional, avait fait fortune, était repris partout.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Traverser la rue pour trouver un emploi, travailler pour s'acheter un costume au lieu de faire grève en t-shirt, cesser de dénoncer les premiers de cordée qui, un jour peut-être, feront l'aumône aux chômeurs quand les célèbres plans de retour à l'emploi les auront mis à la rue, et surtout, surtout, comprendre que les non-riches coûtent un pognon de dingue à un État qui a bien mieux à faire que de leur octroyer 5 euros d'aide au logement. Heureusement que ce genre de discours n'a pas cours aujourd'hui et qu'il s'agit là de fiction pure et simple. Un chef d'État responsable ne peut évidemment s'adresser ainsi à son peuple. On se demande où les romanciers vont chercher leur inspiration. D'ailleurs, les premières lignes du petit livre « Désordre » que Leslie Kaplan vient de publier chez POL le précisent d'emblée. Ce dont il s'agit, cette vague de crimes soudains commis par des opprimés contre des inconnus appartenant à la classe des oppresseurs, est évidemment une fiction inspirée par le climat social du 19e siècle. Celui, vous vous souvenez, des maîtres de forge et des manifestations réprimées par la troupe. Des troubles causés, comme l'écrit alors la presse désorientée, par le mauvais esprit. Des meurtres sans préméditation et sans explication, du moins jusqu'à ce qu'un ouvrier, poussant sous un autobus un député qui proposait de recalculer les heures supplémentaires, s'exclame « ça suffit la connerie ». Désordre est un bref et percutant conte politique qui nous offre un moment de pure jubilation. Bonsoir Leslie Kaplan.
Bonsoir.
Dans vos outils d'écrivaine, on connaissait les pièces de théâtre, les romans politiques avec une écriture très moderne. Et là, vous avez choisi un petit conte qui fait irrésistiblement penser, bien sûr, au Voltaire de Candide ou de Zadig. Qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup? On a l'impression que vous avez cédé là à une impulsion coléreuse mais joyeuse.
Écoutez, c'est bon, tout à fait ça. C'est-à-dire, je crois me rappeler que c'est vers la fin du mois de février où tout d'un coup, j'en ai eu vraiment assez. Assez qu'on parle de violence, violence, violence dans la société, sans parler des violences premières, des violences policières. J'avais vraiment l'impression, d'une certaine façon, que le monde était à l'envers. Bon, et qu'on parlait vraiment complètement faux, d'une certaine façon. Bon. Et je me suis dit, bon, alors, allons-y, puisqu'il paraît que les violences viennent d'en bas et pas d'en haut, prenons ça au sérieux et inventons une série de crimes violents, très violents, de meurtres, venus précisément d'en bas. Voilà.
C'était quoi? C'était le désir de rendre aux mots leur sens, parce que quand on parle de violence, forcément, surtout là, ces derniers mois, la violence, elle était toujours venue de la base. Manifester, c'était de la violence. Casser des abribus, c'était de la violence. Mais une violence qu'on aurait dû né comme ça, sans rien. Donc vous avez voulu remettre du sens dans les mots.
Tout à fait. C'est-à-dire, bon, enfin d'ailleurs, je pense que ça fait vraiment partie de, disons, le travail de base, si on peut dire, d'un écrivain, bon, ou d'une éthique minimale. C'est-à-dire, qu'est-ce que les mots veulent dire. Bon, et c'est vrai que quand on dit que manifester, et voilà, c'est violent, et qu'on ne parle pas, bon, des conditions de travail, bon, là, par exemple, parlons-en des urgences, bon, par exemple, bon, mais avant il y a eu, bon, tout ce qu'il y a eu, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit, bon, dans l'éducation nationale, etc., etc. Bon, vraiment, c'est comme si, dans un pays absolument calme, serein, bon, prospère, tout le monde pareil, etc., il y avait subitement des éclats, comme ça, on ne comprenait pas pourquoi, et je trouvais pas ça du tout juste.
Alors c'est en tant qu'écrivaine, mais c'est aussi en tant que citoyenne engagée, que vous avez suivi de très près toute cette actualité des gilets jaunes, semaine après semaine, et notamment vous êtes allée à l'Assemblée des Assemblées à Commercy, ce qui vous a beaucoup frappé. Avant d'en parler avec vous, Leslie Caplan, on va écouter ce qui se disait justement chez les Gilets jaunes à ce moment-là.
La première des violences que les Gilets jaunes ont subies, c'est la violence du mépris.
On nous traite de personnes qui ne travaillaient pas, de gueux, d'alcooliques. Enfin, on a eu toutes les étiquettes de fascistes, de racistes, d'antisémites. Enfin, oui, je prends ça pour une violence. Et c'est une violence. Parce qu'on nous juge.
C'est une image.
Le mépris de classe.
Oui, c'est ça. Tout ça, bah, ma foi, c'est de la belle démocratie vivante. Et surtout, éclectique au possible. Ce qu'on est en train de faire là, c'est on construit quelque chose. Il n'y a que des gens qui réfléchissent ici. Regardez, toutes les opinions sont là. Il n'y a pas de gauchistes ou de fachos ici. Tout le monde est là, en train de se parler.
C'est pas nous qui provoquons l'État méchamment. On est vraiment, on va dire gentil. Je trouve pas le bon terme, mais gentil. Par contre, on nous provoque. Nous disant, on va vous balayer, on va vous pousser, on va vous ramener les forces de l'ordre. Non, on est là pour se faire entendre gentiment. Et ça peut devenir méchant.
Moi, je dis le seul responsable des manifestations, le seul organisateur, c'est qui? C'est Macron.
Il serait bon d'avoir une sorte de préambule général sur le type de société qu'on veut. Des choses aussi simples que une véritable égalité, une fiscalité sociale, des choses aussi simples que l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi de suite. Plutôt que de dire « voilà ce qu'on veut plus », dire « voilà ce que nous voulons ».
Leslie Caplan, au lieu de dire ce qu'on ne veut plus, dire ce que nous voulons. Oui. Vous avez été très frappée de la qualité des débats auxquels vous avez assisté à Commercy,
oui,
notamment.
Oui, oui. À vrai dire, on y est allé en famille. Bon, vraiment, parents, grands-parents, enfants. Et bon, on a assisté pendant 2 jours. Hein, c'était un week-end. Et on a vraiment été frappée par le fait de cette parole qui traitait de tous les sujets d'une façon extrêmement démocratique. Il n'y avait personne qui dirigeait, qui hiérarchisait la parole. Il était possible de dire tout. Une femme parlait d'une crèche possible ou pas, ou comment. D'autres parlaient évidemment d'autres revendications. Mais c'était vraiment frappant à quel point la parole était libre. Et évidemment, je dois dire que ça m'a rappelé un autre moment de parole tellement important en tous les, bon, pour moi, qui était en 68. Et c'est vrai que, bon, il se trouve qu'en 68, j'étais dans une usine occupée. Et
dans la région lyonnaise.
Exactement, à Lyon, à Gerland, dans la banlieue. Et il y avait vraiment ce genre de parole. C'est-à-dire, on parlait sur des détails, on parlait aussi sur des grandes chose, c'est-à-dire on passait aussi bien de la crèche à la démocratie. Et ça, c'est vraiment quelque chose bon, qui est extrêmement émouvant et prenant et qui donne envie de faire quelque chose. Et quand le monsieur qui a parlé là parle de construire, bon, c'est très frappant, c'est-à-dire que c'est exactement de ça dont il s'agit. Quelle société on veut construire?
Évidemment, beaucoup d'observateurs ont fait la comparaison avec mai 68, cette libération de la parole, ce passage du détail mais qui heurte à la société tout entière. Mais on a aussi beaucoup parlé de 1789 et notamment de Sieyès et de son tiers-état. Mais c'est vrai qu'il y a dans ce pays, la France, une résurgence régulière de ces prises de parole qui viennent de la base, qui sont au départ méprisées par les aristocrates du pouvoir, et qui finalement débouche à chaque fois sur une remise en cause de la répartition des pouvoirs et de l'égalité, ou en tout cas d'une certaine équité dans ce pays qui n'est pas respectée. C'est aussi quelque chose qui vous a frappé.
Ah oui, tout à fait. Ben, de toute façon, moi je sortais en somme d'écrire Mathias et la Révolution. Là, la Révolution,
votre livre précédent, dont vous nous aviez parlé ici.
Oui, la Révolution française. Et c'est vrai que une des choses merveilleuses dans la Révolution française, c'est vraiment comment la parole circulait, que ce soit dans les clubs, dans les clubs de citoyens, les différents, et dans la rue, et à l'Assemblée, etc. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très bouleversant quand on lit des choses qui racontent ça au jour le jour. On est vraiment, vraiment bouleversé par ça. Et je pense que c'est vrai qu'il y a une tradition de ça.
D'ailleurs, il y a cet écho dans votre livre « Désordre », Leslie Kaplan. On va écouter une première lecture d'un extrait de ce livre.
La liste s'allongeait. Fin mars, les médias commençaient à signaler une récurrence. En avril, c'était sûr, il se passait quelque chose. Mais quoi ? Certains essayaient de faire une typologie. Un essayiste écrivit un article bien tourné. Il rebondissait de crime en crime et montrer qu'il y avait bien, en effet, un aspect qu'on retrouvait chaque fois, le caractère de classe, il fallait bien utiliser ce mot. Ou un refus, on pouvait l'affirmer, de la domination. Il parla d'agressivité impitoyable, la formule pourtant bien connue qui soulignait l'absence totale de culpabilité fit choc. Aucune revendication bien claire, mais une ressemblance qui était dans le ton, si l'on pouvait dire, des assassinats, la manière, bref, le style. Le style ? Quand le mot fut utilisé, il y eut une levée de boucliers. Comment pouvait-on parler de style ? Quelle décadence ! Vraiment, un côté fin de civilisation ! Et pourtant, aucun doute, il ne s'agissait pas de l'appât du gain. Il n'y avait aucun gain. Et évidemment, il ne s'agissait pas non plus de crime passionnel. Au contraire. L'assassin restait dans un rapport à la fois proche et lointain avec la victime. Il était concerné, sans doute, mais pas tout à fait impliqué. Il gardait une distance. Et la typologie devait non seulement tenir compte de la forme des crimes, mais aussi cerner leur motivation. D'où cette fameuse appellation de crime du XIXe siècle, qui semblait si juste. Bref, on ne savait pas quoi penser.
Leslie Kaplan, ce que vous avez choisi pour caractériser ces fameux crimes du XIXe siècle, évidemment, ça fait allusion à ce siècle de Karl Marx, de la lutte des classes et des débuts du syndicalisme et des combats pour les grandes lois sociales.
Tout à fait. Et aussi, c'était une façon de dire que le mot « classe », maintenant, c'est un peu comme s'il était ou tombé en oubli, ou tout simplement on trouve ça, comment dire, ringard, disons ça comme ça, d'utiliser ce mot. Alors que tout de même, c'est absurde. C'est comme le mot domination, on l'utilise avec vraiment avec des pincettes. Il faudrait pas parler de ça. Et ça, tout de même.
Il vaut mieux parler de premier de cordée. C'est beaucoup plus chic.
Oui, beaucoup plus chic. Par exemple, tout à fait.
C'est indéniable, mais il faut bien le reconnaître.
Voilà, exactement. Et ça, c'est pour moi, finalement, c'est de l'ordre du mensonge. Il n'y a pas d'autre, c'est de l'ordre du déni, donc du mensonge. Il y a quelque chose là qu'on recouvre, qu'on veut effacer. Et je trouve ça aberrant. Bon, vraiment, ça ne va pas. Bon,
mais d'ailleurs, dans votre livre, et je sais que vous y êtes très attentif tout au long, d'ailleurs, des livres que vous avez écrits, et dans vos pièces de théâtre, Leslie Kaplan, c'est l'utilisation des mots, le sens des mots. Vous parlez souvent de mots pleins et de mots creux, et c'est vrai que là, on est en plein dans cette sémantique qui a glissé au fil du temps, et on voit très bien qui ça arrange de ne plus employer le mot classe ou le mot domination. Mais par exemple, c'est très frappant de voir que on ne parle plus de licenciement, on parle de plan de retour à l'emploi. Tous ces termes qui ont été inventés pour vider, pour cacher le sens, parce que et dans cette crise sociale que vous avez suivie de près, il y avait aussi cette exaspération. Il faut appeler un chat un chat, en
mais
gros.
Exactement.
Un chômeur, exactement. un riche.
Et d'ailleurs, une des choses qui était frappante dans le, quand les Gilets jaunes ont commencé à s'exprimer, c'est que, sur les ronds-points, ils ont dit, nous sommes pauvres. Eh bien, le mot pauvre, alors là, s'il y a un mot qu'on n'utilise plus, c'est bien celui-là. Il n'y a plus de pauvres. Quand même, et c'est absurde parce que je crois que c'est une façon de vraiment de masquer le réel. Bon, c'est-à-dire autant on n'a pas envie d'être dans une compassion, on a envie d'être dans une lutte. Et le mot pauvre a son sens par rapport à une lutte et pas du tout par rapport à une compassion religieuse ou autre. Et ça, c'est quand même vraiment, je crois, important de comment ils ont fait ressurgir un certain nombre de mots.
Et de même, il était frappant de voir qu'on leur déniait sans cesse le terme politique. Oui. C'est-à-dire, c'était pas des luttes politiques.
Bien sûr, voilà. Alors ça, c'est aussi une chose qui a eu cours et que j'ai trouvé réellement aberrante. Ce n'est pas politique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est pas politique? Pour moi, le politique, c'est vraiment une dimension humaine, existentielle, qui traverse n'importe quel être humain. Il n'y a pas en plus du politique, on n'est pas non plus à côté avec le politique. Le politique, ça fait partie vraiment de ce qui nous traverse tous, du fait tout simplement qu'on parle, c'est-à-dire qu'on vit en société et on peut d'ailleurs, j'allais dire sans remonter, mais on peut remonter à Aristote. Bon, enfin c'est évident. Bon, voilà, je crois que c'est vraiment important.
Vagabonde sur France Inter.
Ce sont ce que j'appelle les passions tristes de la France. Je crois à l'accorder. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société parce qu'ils ont des talents. Et je veux qu'on célèbre toutes ces réussites, chacune et chacun. Il y en a d'autres pour qui la vie est plus dure. Je veux les aider par leur travail à réussir. Et d'autres qui sont fragiles, nous les protégerons. Mais si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
Si vous êtes prêt et motivé, viens. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Et les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays.
Leslie Kaplan, dans votre petit livre « Désordre » dont nous parlons ce soir, qui vient de paraître aux éditions POL, vous décrivez beaucoup la sidération qui saisit les classes dirigeantes devant ces crimes du 19e siècle, sans préparation, sans lien entre eux. Et vous ne vous parlez pas de ce qui a déclenché, on le déduit en lisant les crimes et la façon dont ils se passent, mais dans la réalité, quand vous avez suivi l'actualité sociale de la France cette année, le déclencheur, il est, alors pour une écrivaine c'est important, il est dans les mots du chef. Mmh. Le chef qui dit, s'il cherche un responsable qu'il vienne me trouver, mmh, eh ben le voilà, donc mmh, le déclencheur.
Mmh. Oui, tout à fait, ben là on l'a entendu parler des premiers cordée, bon, par exemple, et c'est comme si vraiment, quelqu'un qui défend la liberté ne comprenait pas une chose qui est tout de même inscrite dans l'histoire de France quand même, que la liberté, ça suppose toujours l'égalité. Bon, c'est-à-dire que sinon, vraiment, il y a vraiment la liberté, c'est toujours une liberté réciproque. Et ça, vraiment, c'est bon, enfin, il ne comprend pas, enfin, il ne veut pas comprendre. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui aussi est très frappant. Comment ce refus de comprendre, cette arrogance, est en effet, comme d'ailleurs il a été dit avant, provocatrice. Il n'y a aucun doute. On vient provoquer en tenant des propos comme ça.
C'est de l'importance des discours, l'importance des mots, alors qu'on dit aussi qu'il ne faut pas que les mots cachent la réalité d'une politique. C'est que on a l'impression, quand on passe en revue les derniers présidents, Sarkozy, Hollande et Macron, qu'à chaque fois, il y a eu quelque chose qui s'est cristallisé sur la parole présidentielle. Oui. Comme si il y avait quelque chose auquel les Français avaient droit, c'est-à-dire une sorte de respect de la part de leur élu, qui a manqué à chaque fois.
Mais moi, il me semble que c'est peut-être aussi une sorte de symptôme qui vient du fait que le système dans lequel on est vraiment, d'une certaine façon, à bout de souffle. Alors, bien sûr, ça, je ne vais pas faire de prophétie, etc. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer, mais il n'y a aucun doute que les mots sont de plus en plus usés, les mots qui étaient censés lier ensemble et qui, la société, deviennent de plus en plus usés, parce qu'on voit bien que ça ne correspond absolument pas. Bon, pour revenir à l'histoire du premier de Candé, mais il y a aussi bien, qu'est-ce que ça veut dire, travailler, mettre un beau costume, bon, traverser la rue pour trouver du travail. Une phrase comme ça, qui après tout est grammaticale, bon, et en même temps complètement folle. Bon, je veux dire, n'importe qui l'entend se dit, mais quoi ? Comment on peut dire une chose pareille? C'est énorme. Bon, et ça, je crois que d'une certaine façon, plus ça va, plus il y a les mots deviennent vidés, creux, deviennent soit des clichés, soit de pauvres choses, un peu des loques. Et ça, je crois que on s'en rend compte, bon, d'une façon ou d'une autre. On le dirait peut-être pas exactement comme je le dis, on peut le dire autrement. Mais je crois que c'est quelque chose qui est là.
D'ailleurs, quelqu'un le dit aussi, pas si loin de ce que vous venez de dire, Leslie Kaplan, c'est une des femmes qui était présente un jour sur un rond-point et qui avait entendu le dernier discours, le dernier éclat de Jupiter, et voilà ce qu'elle disait.
Pour eux, on n'est rien. Ça fait quelques années que ça commence, mais les discours de M. Macron n'ont fait que accentuer tout ça. Les gueux, les sans-dents, les réfractaires gaulois, enfin, comment ils peuvent parler de leur peuple? Parce que moi, j'avais une grande idée de, pour moi, du président. C'est-à-dire qu'il représente tout un peuple. Et pour moi, c'était quelqu'un qui aime son peuple. Il l'apprend avec ses qualités et ses défauts, mais il est là pour le défendre, son peuple. Comment il peut parler comme ça d'un peuple qu'il est censé représenter? Un être humain, il a besoin de d'autres choses. Enfin, on ne peut pas se contenter d'obliger l'être humain. Alors, travail, paye tes factures et c'est bon, ta vie elle est faite. Non, ça s'arrête pas à ça. Un être humain c'est bien plus complexe que ça. On a besoin de relations sociales, on a besoin de sortir, on a besoin de rêver, on a besoin de beauté, oui, de bonheur, d'amour. Et quand on est occupé 24 sur 24 dans des préoccupations d'intendance et de finances, on ne peut plus fonctionner. Ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous détruit. C'est comme quand on dit oui, quand on veut, on peut. Alors j'ai eu longtemps ce discours, hein. Je l'ai eu jeune, je l'ai eu longtemps. Mais en fait, non, il y a des gens qui n'ont pas le « je peux ». Je veux, mais je peux pas, j'y arrive pas. C'est pas possible.
Leslie Kaplan, c'est assez intéressant, surtout pour quelqu'un qui écrit, qui manie les mots, de voir à quel point il y a un besoin de retrouver une authenticité dans les mots qui désignent une réalité. Il y a eu un écart beaucoup trop grand. Alors, les journalistes emploient facilement l'expression « langue de bois des politiques », on n'en peut plus, ça veut rien dire. C'est pas la langue de bois des politiques, c'est que, en fait, on se demande si aujourd'hui, les politiques ne sont pas devenus tout simplement incapables de décrire la réalité qu'ils imposent à leur peuple, peut-être tout simplement parce qu'ils ont peur de la réaction.
Oui, je pense qu'à la fois ils ne connaissent pas la réalité et ils ne veulent pas la connaître et ça fait un tout. C'est-à-dire, c'est vrai que cette phrase qu'on a assénée à cette femme qui parle très très bien de ce dont elle ne veut plus et de ce qu'elle voudrait au contraire et de ce à quoi elle pense qu'elle a droit, à mon avis évidemment a raison. Bon, c'est-à-dire une vie humaine en somme. Bon, voilà. Quand elle dit cette phrase. Quand on veut, on peut. Non, mais c'est du même genre de, il suffit de traverser la rue. Il n'y a qu'à. C'est le, il n'y a qu'à. Mais le, il n'y a qu'à, c'est une phrase que d'ailleurs souvent on entend, surtout quand on est enfant d'ailleurs. Bon, donc c'est vraiment quelque chose de très infantilisant. Bon, il n'y a qu'à faire ci ou faire ça. Comme si c'était simplement une question de mauvaise volonté.
Bon. Mauvais esprit, comme vous l'écrivez.
C'est vrai, comme je l'ai dit. Bon, mauvais esprit, en plus, ça fait vraiment très bourgeois. Bon, enfin, une façon de dire très bourgeoise. Bon, et je crois que c'est ça qui est ressenti. Bon, ça, certainement. Bon, c'est vraiment... je crois qu'elle a dit très très bien, elle a très très bien parlé là.
Alors retour à ce livre, Désordre, dont nous parlons avec vous Leslie Kaplan, deuxième lecture.
Vers la mi-avril, quelques grands patrons et dirigeants d'entreprises commencèrent à se contacter, à se consulter et firent même des réunions. Ils se demandaient s'il fallait exiger du gouvernement qu'il décrète l'état d'urgence. Mais immédiatement la question rebondissait. Urgence de quoi? Qui était réellement visé? Les mots classe, domination, subordination, etc. étaient devenus désuets, difficiles à manier. D'ailleurs, en grande partie à cause de l'influence de ces mêmes grands patrons ou chefs d'entreprise qui détenaient, c'était bien connu, la plupart des journaux, des radios et des télévisions. Alors que faire? Surtout, on ne voyait aucune ligne claire en face. Seulement un mauvais esprit. Voilà, le terme apparu. On ne sut pas qui l'avait employé pour la première fois, mais il plut. Il sembla adéquat, juste, exact. Il faisait le tour de la question. La France allait sombrer, sous le mauvais esprit, et de toute évidence, ceux qui étaient visés étaient ceux qui faisaient la richesse et la renommée de la France. Mais ce qui se passait sembla vite à certains impossible à endiguer. Si on regardait bien, disait-il, si on était sérieux et sincère, la domination était partout. partout la domination. Il n'y avait que ça. De la chambre à coucher, et oui, à l'entreprise la plus performante, la plus moderne, en passant par les petites boîtes archaïques, un peu démodées, mais restées vivaces. Et dans les administrations, et dans les services publics, dans les hôpitaux et les écoles, les universités, les associations.
Leslie Caplan, ce qui est à la fois réjouissant et déstabilisant quand on lit ce petit essai, ce petit conte que vous avez commis chez POL, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses que l'on reconnaît comme étant exactes. Et puis tout de suite, vous partez, vous faites un pas de côté pour pousser, au fond, l'absurdité ou l'exaspération à son comble. Et du coup, on repart dans le conte, dans l'impossible. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de dire « Et si ça se passait comme ça ?» Voilà, on a un côté mauvais garçon oui. en nous qui fait... Voilà. Et si on essayait ça aussi ?
Ben oui.
Surtout la fin, par exemple. On ne va pas déflorer, mais la fin est très réjouissante.
Écoutez, ça c'est... Voilà, on peut dire que c'est une proposition, de lecture, et peut-être... Mais oui, je crois que c'est vrai que, bien sûr, ce qui m'a plu, c'était de pousser les choses à l'absurde. Mais l'absurde contient, comme on le sait bien, toujours une part de vérité. Et je crois que c'est aussi un des ressorts du comique ou du burlesque. Bon, et finalement, vraiment, pourquoi pas ? Moi, je crois vraiment que c'est une façon de faire réfléchir. C'est-à-dire, comme vous le dites si bien, oui, et après tout. Alors, évidemment, le crime, c'est le crime. Bon,
on ne peut pas approuver, c'est comme boire un verre de trop, on sait bien que ça ne se fait pas.
Voilà, le meurtre, on ne va pas le préconiser. Mais évidemment, ça plane. Et moi, je crois que c'est très bien que ça plane, parce qu'il me semble que ça met en lumière, en effet, comme vous le dites, plein de points sensibles dans tous les endroits de la société, que ce soit l'université, les hôpitaux, les usines, etc. Et ça, c'est vrai que c'est, il me semble que ça peut être stimulant.
Oui, et c'est stimulant parce que c'est de la littérature, et du coup, on se rend compte que loin d'être dépassé par la politique, par le fait que, à quoi ça servirait, la littérature, ça sert à faire penser.
Oui, je crois absolument. Il y a un écart que la littérature, disons, invente ou essaye d'inventer, qui est en effet, il me semble, très utile, même nécessaire.
En tout cas, c'était un délice d'en parler avec vous ce soir, Leslie Caplan. Ce petit livre « Désordre » qui vient de paraître chez POL, je le recommande vivement à tous ceux qui ont envie de réfléchir. Mais effectivement, je le rappelle, c'est une fiction. Merci à vous, Leslie Caplan. Au revoir.
Merci à vous.